ce soir l'ancienne ministre Roselyne Bachelot. Bonsoir Roselyne.
Bonsoir les garçons.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir Alain. Mais je vous avais mis dans les garçons, Alain.
Il n'y a pas de genre.
Il y a les garçons et les personnes âgées.
C'est ça, d'accord.
Le collectivisme, ça n'a jamais été tellement son truc.
C'est pas ça, oui, c'est pas ça, Cam. Oui.
On va discuter du sort de Michel Barnier, Alain Duhamel. Qu'y aura-t-il à Noël ou d'ici les fêtes pour le chef du gouvernement? Une bûche ou le budget, alors?
Disons que la bûche, je ne pense pas au climat et au verglas, mais la bûche est un risque incontestable. Un, parce que jusqu'ici, Marine Le Pen, depuis la dissolution, a une grenade dans la main. Que cette semaine, elle vient, à deux reprises, de la dégoupiller, de proférer des menaces précises. Et que, si elle décide de la lancer, eh ben, c'est la déflagration et que le budget ne passe pas. Deux, parce que le budget est, et ne peut être d'ailleurs, dans les circonstances actuelles, qu'impopulaire. D'ailleurs, ça ressort de notre sondage, mais enfin, c'est l'évidence, puisque de toute façon, c'est plus d'impôts et moins de dépenses. Donc, ça ne peut pas plaire. Bon. Trois, parce que le climat social, on le voit bien, c'est vrai, aussi bien la SNCF, les agriculteurs, les plans sociaux, est détestable. Et quatre, parce que à la fin de la semaine prochaine, il risque d'y avoir la note la plus importante des agences de notation, et que si ça n'est pas bon, c'est un facteur. Bon, pourquoi est-ce que ça ne se passerait pas? Ben parce que Marine Le Pen n'a peut-être pas envie d'apparaître comme responsable de la déflagration si ensuite les choses empirent et se passent mal, si c'est le chaos et qu'elle l'a déclenché.
Par parler de crise financière.
Ben oui, non, mais c'est pour ça que je faisais allusion à Standard & Poor's. On saura ça la semaine prochaine, dans quelques jours. Bon, si tout ça se passe, celui ou celle qui aura déclenché ça portera une responsabilité. Et puis peut-être que son calendrier judiciaire n'est pas absolument idéal pour déclencher une crise.
Ce qui est très intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rende compte que l'outil de gouvernance qu'est la Constitution ne fonctionne plus dans le schéma dans lequel nous sommes. C'était assez clair. Il y avait une motion de censure, elle était adoptée, il y avait la dissolution et on repartait vers une majorité identique ou une autre majorité. Là, le président, du fait qu'il est tiré, sans doute pas au bon moment, l'arme de la dissolution...
Oui, imprudemment, oui.
Imprudemment, je retiens votre terme, se trouve privé de cette arme de la dissolution.
Oui, parce que s'il y a motion de censure, il n'y aura pas d'arrangement.
Alors, on se demande ce qui peut se passer. D'abord, moi j'ai un problème, parce que je regarde les avis des constitutionnalistes, alors là, c'est la foire à la saucisse, personne n'est d'accord sur le schéma qui peut se passer.
Oui, mais c'est leur fertilité intellectuelle.
Voilà, c'est ça. Je reprends aussi cette formule, mais c'est parce qu'ils sont très démunis, parce qu'ils sont dans un scénario...
Il n'y a pas de précédent, d'abord.
Il n'y a pas de précédent. Alors, donc, moi j'ai une question à poser à l'expert constitutionnaliste, éditorialiste qu'est Alain, on vote par le 49-3. Bon, le budget est censé être adopté. Et c'est ensuite qu'est la motion de censure. Là, il y a une chose que je ne comprends pas. C'est comment ça se passe dans le déroulé des choses. Parce que si le budget est adopté, ça permet le fonctionnement de la machine gouvernementale avec un gouvernement qui gère les affaires courantes, mais avec un budget qu'il a en main et qui lui permet de payer les fonctionnaires et de faire fonctionner l'État et ses établissements publics.
S'il y a motion de censure à la suite de la présentation du budget, donc 48 heures après, ça signifie que le gouvernement est obligé de démissionner. Et à ce moment-là, on a des petites ficelles.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on fait passer le budget par ordonnance, voilà. ou bien on exhume, pour le coup, le mot est bon, on exhume les 12e provisoires.
On peut même exhumer l'article 16.
Alors c'est quoi les 12e provisoires ?
12e provisoire, il y a 12 mois dans l'année. Si en décembre, il y a une motion de censure, donc si théoriquement le budget ne s'applique pas, eh ben on débloque automatiquement le 12e du budget
2024.
pour que les, bien sûr, 2024, au mois de décembre, le mois prochain, pour que les fonctionnaires puissent être payés. Parce que s'il n'y a pas
donc,
de 12e...
Donc, pour assurer les fonctionnaires, ils seront payés même si le gouvernement tombe.
Absolument, mais il peut y avoir, compte tenu du calendrier, des décalages dans ce cas-là. Ce qui n'est pas une bonne chose au moment de Noël.
Notamment, il y a des primes qui n'ont toujours pas été payées pour les policiers, les primes JO,
ben
Jeux
oui.
Olympiques.
Ben oui.
Non, mais c'est la situation...
C'est, il faut bien reconnaître qu'on n'a jamais connu ça sous la 5e République.
Mais vous disiez, Marine Le Pen, elle prendra un risque de créer une crise financière, une crise politique, mais en même temps, si elle continue de ne pas censurer Michel Barnier, ses électeurs vont la tenir comme finalement responsable des hausses d'impôts.
Mais vous avez raison, mais elle est à la fois en ce moment la plus puissante, c'est elle qui peut déclencher le feu, et en même temps, elle n'est pas libre de ses mouvements parce qu'elle aussi court des risques. Et s'il y a une...
Oui, ses électeurs veulent la censure.
Et ses électeurs veulent maintenant nettement la censure.
Ouais, mais ça a changé, ça.
Mais les Français, bien sûr, les Français sont plus mécontents maintenant qu'il y a deux mois. Oui. Hein, c'est bien clair. Ne serait-ce que parce que les sujets de discussion sont tous des sujets négatifs.
Mais Marine Le Pen n'est pas non plus, elle aussi, dans une situation très confortable, parce qu'elle a bâti sa nouvelle stratégie politique sur une stratégie de normalisation, de notabilisation, de respectabilité, et elle est dans une sorte de tenaille, puisqu'il y a d'un côté ses affaires judiciaires. Moi, je rencontre beaucoup des Français, j'étais encore à l'Association des maires hier à rencontrer des maires ruraux, dont je pense que certains ont voté pour le Rassemblement National. Les Français sont pas du tout choqués qu'elle puisse être frappée d'inéligibilité, mais ils sont désespérés de voir une porte de sortie se fermer.
Ils vous ont pas parlé de Bardella ?
Pas
les maires ruraux.
Pas du tout. Alors les maires ruraux, Bardella, c'est nobody. Hein. Confier les clés du camion à un gars de 29 ans qui n'a jamais exercé une fonction de gestion, avec leur bon sens, ça leur paraît pas une bonne idée. Donc, d'un côté, la mâchoire de ces ennuis judiciaires dont les Français comprennent très bien l'impact sur sa personne. Et de l'autre côté, le fait de venir joindre ses voix au cartel des gauches, avec tout ce que représente le LFI, alors vraiment, ça casse complètement la stratégie de notabilisation de Marine Le Pen. Il faut vraiment qu'elle réfléchisse à deux fois avant de pratiquer la politique du pire.
Vous avez raison, à ceci près, qui ne s'oppose pas à ce que vous dites, mais qui complète ou prolonge, c'est que comme son véritable objectif, et si elle le peut l'année prochaine, mais en tout cas son véritable objectif, c'est de précipiter l'échéance de l'élection présidentielle en contraignant Emmanuel Macron à démissionner. Et donc, s'il y a une crise, si par exemple il y a la motion de censure, s'il y a un autre chef de gouvernement qui est désigné, s'il y a une deuxième motion de censure à propos de n'importe quoi, si à ce moment-là on est vraiment dans une crise institutionnelle. Et à ce moment-là, il y a une hypothèse de démission. Je dis pas du tout que c'est une probabilité parce que personnellement, je n'imagine pas Emmanuel Macron démissionner.
C'est le scénario Mélenchon.
Mais je rectifie, c'est le scénario Mélenchon-Le Pen. Parce que les deux veulent une élection présidentielle anticipée.
On va même rajouter Hollande.
Hollande est plus patient.
Mais est-ce que dans ce scénario, il y a aussi peut-être le Parti socialiste qui a son mot à dire? Parce que, est-ce que Rassemblement National...
À mon avis, dans une deuxième période...
Simplement pour faire chuter le gouvernement Barnier, Rassemblement National plus France Insoumise, ça ne suffit pas. Il faut donc qu'il y ait d'autres forces politiques qui se joignent à ce vote.
Mais la chronologie, là, va dans l'autre sens, dans la mesure où ceux qui présentent la motion de censure... Ça n'est pas le Rassemblement National, c'est le Nouveau Front Populaire. Voilà. Et à partir du moment où c'est le Nouveau Front Populaire qui présente la motion de censure, les socialistes sont obligés. Voilà. Alors, il y en aurait sans doute quelques-uns qui s'abstiennent, mais arithmétiquement, il suffit, s'il y a le Rassemblement National, les Insoumis, les écologistes, il faut à peu près la moitié du groupe socialiste pour y arriver.
Ça passe.
Ça passe.
Non, parce qu'il faut bien comprendre que Jean-Luc Mélenchon a indiqué qu'il ne voterait pas la censure si c'était le Rassemblement National qui la présentait.
Oui, mais donc ça sera lui, là.
Voilà, tandis que là, ce sera lui qui le fera, et donc le Rassemblement National a indiqué qu'il le voterait. Non, moi je vois plutôt la scission du Parti Socialiste, la scission, du moins, certaines prises d'indépendance dans le cartel des gauches du Parti Socialiste et peut-être des écologistes, quand la censure aura été votée, qu'on sera dans une situation, dans un imbroglio incroyable où le président de la République sera contraint de nommer un nouveau gouvernement, et on peut à ce moment-là, je ne dis pas que c'est possible, il est envisageable peut-être que des socialistes raisonnables, je mets tous les guillemets du monde à raisonnables, se disent c'est peut-être le moment de tirer un bord et de se libéré de ce carcan qu'est le LFI, de se glucksmaniser, est-ce que je peux employer ce néologisme ?
Ce que vous dites, ça voudrait dire que, en pratique, il faut que, après la motion de censure, ce soit quelqu'un de gauche modérée ou indépendante, type Bernard Cazeneuve, qui soit désigné.
Exactement.
Bah, Jean-Luc Mélenchon n'en veut pas, il a rappelé que leur candidat, le candidat de Nouveau Mouvement Populaire, c'était toujours Lucie Castet.
Absolument, mais encore faudra-t-il qu'elle soit nommée, ce qui est assez peu vraisemblable. Et si elle était nommée, qu'il n'y ait pas à ce moment-là une autre motion de censure.
Est-ce qu'on ne peut pas revenir à l'idée de ce gouvernement technique qui avait été évoqué avant la nomination de Michel Barnier ? Ça faisait partie des scénarios possibles, souvenez-vous.
S'il y a une impasse, c'est-à-dire s'il y a une motion de censure contre Michel Barnier et son gouvernement, qu'un autre Premier ministre est nommé, qui a immédiatement une autre motion de censure, c'est imaginable. Là, ça fait très Troisième République. Hein.
Mais il peut y avoir une motion de censure aussi contre un gouvernement technique. Hein. Le gouvernement technicien ne garantit absolument pas l'absence de motion de censure.
Je suis d'accord avec Rosine.
S'il fait rien.
Mais s'il y a un gouvernement technique avec gouvernement minimum, et d'autant plus que, en fait, on le sait bien, et vous mieux que tout le monde, le moment où c'est le plus dangereux pour un gouvernement, c'est justement au moment du budget, donc à la fin de l'année. Là, il serait désigné au début de l'année, donc il aurait un peu de temps devant lui, en tout cas jusqu'au moment où on peut de nouveau dissoudre. Bon, donc, il aurait un petit peu de flexibilité, un gouvernement de techniciens, et ceux qui, pour le coup, après avoir deux motions de censure, une contre Michel Barnier et une contre successeur, devant un gouvernement de techniciens ferait une troisième motion de censure, pour le coup, ils apparaîtraient vraiment comme ceux qui cherchent la crise. Et je suis pas sûr que ce soit le plus populaire.
Mais là, je répète ce que je disais en début de mon propos, il faut quand même mettre sur l'établi, ça ne pourra pas nous apporter une solution dans l'immédiat, mais de se dire que la réforme constitutionnelle, repenser les institutions dans un paysage politique tel qu'il apparaît, c'est-à-dire tripolaire, si l'on peut dire, s'impose, et que des...
Il faut accepter aussi...
d'avoir une modification de la Constitution qui impose, comme en Allemagne ou en Espagne, une motion de censure constructive.
Mais ça, il y a deux solutions, qui d'ailleurs ne sont pas incompatibles. La première, c'est effectivement motion de censure, mais en présentant la majorité alternative et la personnalité qui la dirigerait. Bon.
Là, ça ne serait pas possible.
Non, ça ne serait pas possible, mais s'il y avait une réforme constitutionnelle, ce qui, là, serait tout à fait possible, parce qu'il suffit d'une loi normale à l'Assemblée nationale pour le voter, modifier le mode de scrutin pour l'adapter à la tripolarisation. C'est possible.
Et puis après, il y a ce que les Français...
Une part de proportionnel ou une proportionnelle.
C'est une des promesses
d'être... Autrement dit, il faut instiller
une dose de proportionnel, disait la Juppé.
Oui. Il faut soit réformer la Constitution, soit réformer la loi électorale, soit réformer les deux.
Soit aller vers une présidentielle, et on revient au scénario... la démission d'Emmanuel Macron.
Et est-ce que les Français auront envie d'avoir un mois de décembre et d'une crise politique juste avant les fêtes aussi ?
Sûrement pas.
Les Français, ils ont déjà suffisamment de soucis en tête, en plus, du quotidien.
Les Français, ils sont dans une révolte résignée ou dans une résignation révoltée. Ils savent que la situation n'est pas confortable. C'est la crise agricole, c'est l'élection de Donald Trump, c'est la guerre en Ukraine.
C'est la crise allemande.
Vous avez raison.
Qui est pire que la nôtre.
Et les Français se disent, on le sait très bien, on a plutôt tendance à se révolter quand ça va bien.
Oui.
Et c'est peut-être ça qui va tenir à peu près les choses en route.
On se révolte quand il y a une colère optimiste, c'est-à-dire une colère qui pense arriver à changer les choses.
Merci Alain Duhamel, merci Roselyne Bachelot.